C'est un B, un R, un A, c'est un V avec un O. Direction Québec, aujourd'hui en train. Retour samedi. Dimanche, je vous informe, si vous ne le savez pas déjà, que le Canada joue contre la Croatie à 11h le matin. J'adore ça. J'ai déjà réservé. 11h le matin, c'est comme quand je suis allé voir le UFC à 14h. Tabarouette. Pour un gars comme moi, c'est le rêve. Ambiance sportive, le bar est plein. Breuvage. 4h l'après-midi, tout va être fini. Je suis pas content, tu penses? Non, mais pour vrai, ça va être... Je vois ça arriver, ça va être le fun. Très hot. Ça fait que... qu'est-ce que je voulais vous dire, donc? Alors, je vais essayer de vous articuler une réflexion que j'ai eue hier, qui est à côté sur une coupe de des constats et des... J'espère que ça va faire du sens. C'est très, très, très récent, là, OK? C'est nouveau d'hier. L'idée de base, c'est que... Tu sais, je vous dis souvent, il y a des modes intellectuels. Mais ce que je réalise, c'est à quel point les modes intellectuels, ils nous rentrent dedans sans qu'on s'en rende compte. Puis ça va au-delà de ça. Il y a plein d'affaires qui nous rentrent dedans sans que ça nous rende compte. Tu sais, quand on dit raciste systémique, les gens qui portent cette théorie-là, leur prétention, c'est de dire... Ça ne veut pas dire que les gens sont par définition racistes intentionnellement, mais peuvent avoir un réflexe raciste. Je pense que c'est indéniable, très honnêtement. Pourquoi? Parce que c'est le même dans tout. Pas parce que genre, ah, c'est le cas du... Alors, évidemment, c'est dans l'air du temps de parler des minorités opprimées ou soi-disant opprimées. Donc, tiens, ça circule, ces affaires-là. Là. Tout ça, ces notions-là, ça circule. Mais moi, je crois que c'est le propre de tout. On est toujours à quelque part... soumis à une façon de voir qui devient comme une réalité. Puis, juste hier, deux conversations que j'ai eues. Alors, une avec mon docteur, donc Caroline. On est allé au café, à la dernière minute, elle me texte. As-tu du temps? Parfait, on va jaser. On jase. Puis, tout à coup, on parle de plein d'affaires. Puis, elle dit, tu sais, elle dit, le gars violent, là, s'il voit une série ou un film avec un autre gars violent, d'après moi, il s'identifie pas. Il se dit pas, hey, mon Dieu, il est bien zéro, lui, de donner une volée. Puis moi, je suis de même. Ah oui, je suis de même aussi. Elle, son hypothèse, que je peux pas vérifier, mais qui en tout cas, bref, ça m'a germé quelque chose, c'est que le gars violent qui envoie un autre se dit pas, moi, je suis pareil comme lui. Il constate, mais sa réflexion, ça doit être plus de dire, oui, mais moi, il y a une différence. C'est que, genre, elle l'a bien cherché, ou je ne sais pas leur excuse, là, mais... Ça fait qu'elle, c'était ça qu'elle prétendait, puis je trouvais ça intéressant. Et en soirée, Kathleen m'écrit, je la salue, qu'elle avait écouté mon podcast sur Julien Lacroix à la suite, que j'ai fait la semaine passée. Puis là, un long message, où est-ce qu'elle me raconte qu'elle-même, elle a vécu des affaires, telle affaire, puis que... Puis son point, c'était de dire que elle racontait, c'est personnel, là, je ne vais pas aller dans le détail, mais elle racontait qu'elle avait déjà fréquenté quelqu'un qui était, disons, très insistant, qui pour elle, c'était l'équivalent d'être littéralement agressant, tu sais. Puis que quand il a dit ça le lendemain, ben il a fait comme, ben non, j'ai peut-être insisté un peu, tu sais. Ça fait que c'est très intéressant, cette notion-là, de dire... On se forge une idée, là, on décide qu'on est de tel bar, que si on est pour, que si on est contre. Mais jusqu'à quel point on est vraiment comme avec ce qu'on appelle libre penseur, tu sais? Puis moi, je réalise personnellement qu'il y a des fois où je pense que mon truc, ça fait du sens, puis tu sais, c'est comme... c'est basé sur ce que moi, je pense qui crée une bonne réflexion. Tu sais, j'ai souvent dit qu'une réflexion, ça se fait de façon rationnelle, mais quand on le communique, il faut le faire avec... il faut prendre en compte l'émotivité des gens à qui on s'adresse. Parce que sinon, si ça ne va pas dans le sens de ce qu'ils pensent déjà, ils font juste se braquer, il n'y a rien qui bouge. Ça fait que j'ai plein d'exemples de ça. À matin, Régis Labeaume écrit dans la presse, il y a une chronique une fois par semaine que je lis tout le temps. Puis là, ben, il revient sur un des hommes qui est un leader de la communauté musulmane à Québec, là, que, quand il y a eu la tuerie à la mosquée, il était là-dedans. J'oublie son nom, là, évidemment, il y a une photo, puis il est nommé dans l'article et tout. Puis là, lui, là, c'est comme si tout un article pour dire c'est épouvantable de remettre en question l'immigration, de faire un lien entre l'immigration, la violence, c'est terrible. Puis là, une famille d'Irakiens qui arrive ici avec leurs 5 enfants, pense qu'ils ont le temps de commencer, puis telle affaire. Puis je lis ça, puis je fais comme, mais on ne nous a pas recensé depuis septembre 2011 qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Mais c'est un amalgame, parce que moi, je vais t'amener ailleurs. Il y a 234 migrants qui sont arrivés il y a à peu près une semaine ou 10 jours de ça en Méditerranée avec un bateau qui s'appelle le Ocean Viking, qui anciennement s'appelait l'Aquarius. Donc, qui est un bateau qui n'a que fonction de ramasser du monde qui ont décidé de quitter l'Afrique pour s'en aller en Europe en bateau, là, en canot, puis whatever. Fait que leur vie est en danger. Eux autres, ils les ramassent, puis après ça, ils les amènent. Mais ils les amènent illégalement. C'est pas une demande d'asile, c'est rien. C'est juste, voici, nous autres, on veut s'en aller, on veut rentrer, c'est tout, point barre. Ça fait qu'évidemment, ils sont en train de se noyer. La question, c'est pas, est-ce qu'on les regarde? Ben non, t'es ramasse. Puis après ça, ils s'en vont-tu à quelque part? Oui, la question, c'est pas, est-ce qu'on accueille quelqu'un dans le trouble? La question, c'est, on fait quoi? C'est quoi la politique qui sous-tend ça? C'est quoi qui est en arrière? Ça fait que là, évidemment, eux autres, selon une convention, ils étaient supposés aller en Italie. L'Italie a dit, savez-vous quoi? Non. Nous autres, on n'envoie plus ce signal-là. C'est fini que les gens pensent qu'ils peuvent arriver ici, comme ça, puis c'est tout. Un lien direct avec le chemin Roxham. Ça fait que la France a fait, bien, nous autres, là, on n'y prend pas non plus normalement, mais là, c'est un cas humanitaire, donc on va les prendre, les 234. Ça fait que là, le débat commence tout de suite. On devrait, non, on devrait pas, blablabla. Bla, bla. Quelques jours après que le bateau a accosté, qui ont pris en accueil les 234, il en reste 6. Il en reste 6 qui sont encore avec le système. Tous les autres se sont poussés. Partis. Des jeunes, pas des familles comme M. Labeaume dit, avec un portrait idyllique, là, les 5 enfants sont fins. Non, c'est des jeunes qui n'ont même pas 25 ans en majorité, qui parlent des fois même pas la langue. C'est parti, c'est fini, voilà. Ils deviennent quoi, eux autres? Ils n'existent pas sur le territoire français. Ils n'ont pas d'identité, rien. Tu penses qu'ils vont devenir médecins? Moi, si j'étais un jeune qui se pousse puis que je suis accueilli dans un autre, puis je fais comme, hey, moi, de la merde, je veux pas qu'on me renvoie, parce que c'est ça l'affaire. Parce qu'après ça, eux autres, ils les accueillent, puis il y en a la moitié là-dedans que c'est comme, ben la moitié, si c'est pas plus, ils se sauvent. Ça fait que moi, je m'excuse, mais quand c'est le temps de dire pas d'amalgame, mais c'est tout ça, pas d'amalgame, c'est bien trop facile d'idéaliser ou de démoniser l'immigration. Je me souviens un jour, Franco Nuevo avait écrit dans le temps, il y avait une colonne, une chronique dans le Journal de Montréal. Puis il avait été prouvé qu'il y avait eu un profilage racial ou je ne sais quoi à l'aéroport. Là, il était hors de lui, personne n'a parlé de ça, telle affaire. Ça me rappelle tout le temps qu'à un moment donné, est-ce que des statistiques, c'est du racisme? Si, admettons, là, comme c'est le cas à Paris, que 70 % je vous en ai parlé, je pense, 70 % des agressions faites dans les transports publics sont le cas d'étrangers. Donc, c'est pas des immigrés, c'est pas genre un Palestinien qui est rendu avec la nationalité française. Non, un étranger. Il n'y a pas aucune citoyenneté, c'est un étranger. Tu fais comme, mon Dieu, que t'es raciste. Je suis raciste ou je fais des statistiques? Ça fait que tout ça, ça me ramène au thème de base. Je prends juste l'illustration des agressions, l'illustration de l'immigration, des affaires donc, qui sont sensibles. Je fais comme... Il y a toujours... On dirait qu'on n'est jamais vraiment libre de penser comme on veut, malgré nous. C'est ça mon point. C'est comme si malgré... Je me dis, si on réalise ça, il me semble qu'à quelque part, on gagne peut-être une certaine indépendance. Parce que là, après ça, tu as le spectre aussi... le spectre bas de gamme, c'est-à-dire je doute de tout, le gouvernement, mais ce qu'on appelle un complotiste, ça ne m'impressionne pas pantoute. Que quelqu'un doute de tout, c'est pas nouveau, hein? En passant, c'est Descartes, ça s'appelait le doute hyperbolique. Descartes a écrit ça dans je ne sais pas lequel de ses livres, puis lui, il sortait justement là, de la période où l'Église décidait de tout. C'est que ça a été un des premiers à mettre de l'avant par écrit, avec un certain succès, un très grand succès avec du recul, mais à l'époque, que faut pas prendre ça comme du cash. Lui, il faisait carrément référence à la religion. C'est pas parce que ma mère m'a dit que Jésus est né avec un âne puis une crèche. Ça se peut que tout ça... Donc, je doute tout le temps. C'est un vrai doute. Moi, je lève le bravo. Tu doutes de tout. Mais tu doutes pas systématiquement. C'est plus du doute. C'est Raphaël Antoven qui disait ça. Il dit, quand tout ce qui est du pouvoir public, tu dis que c'est pas bon, arrête de dire que tu doutes intelligemment. Il y a une différence entre le doute... Et c'était quoi l'autre mot qu'il disait? Le doute et la défiance, voilà. La défiance, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, systématiquement, parce que ça vient de tel groupe ou que tel aura, donc je considère que... Là, à ce moment-là, tout ce que tu fais, c'est prendre tout ce qui circule dans l'univers pour démontrer que tu avais raison. Mais c'est pas ça du doute. Le doute, c'est douter pour vrai. C'est se dire, écoute, quand tout le monde pense que ça, c'est correct, ça se peut-tu que ça le soit pas? Puis après, il faut que tu aies une vraie recherche de ça. C'est pas genre, ha-ha! Ça fait que je sais pas, depuis hier, je suis comme fasciné par cette notion-là que on est comme, il y a tout le temps une espèce de nuage dans lequel on nage, puis il y a un bout qu'on le voit, puis il y a un bout qu'on le voit plus. Puis ce discours-là, il est supposé être universel. Il est supposé avoir rien à voir avec tes allégeances naturelles, tu comprends? Parce que quelqu'un qui parle comme moi pourrait sonner comme un complotiste. Ils ont un peu ce... Vous avez pas compris, vous êtes manipulé, tu sais. C'est zéro, là. Ça m'intéresse pas en tout. Mon point, c'est de dire que... Puis dans des exemples très concrets, comme le témoignage à Kathleen, qui est vraiment hot, de faire comme... Hey, c'est vrai à quelque part que probablement que... Je vais vous donner... Écoutez bien ça. Peut-être que je vous en ai déjà parlé. C'est ça que j'ai répondu hier au docteur. Il y a un petit examen qui existe, qui a un nom que j'oublie. J'ai parlé de ça, je pense, dans mon troisième livre. Puis ça s'appelle le test des 10 commandements. OK? Pour vrai, là, faites-le ou faites-le faire à quelqu'un. Puis ça a l'air que c'est universel. Chaque personne, c'est tout le temps la même affaire. Premier travail, prends les 10 commandements puis note de 1 à 10 à quel point tu y obéis. Tu respecteras ton père et ta mère. Bon, ben si ta mère, c'est une alcoolique, ton père t'a battu, probablement que t'es à 3 sur 10. Bon, 3 sur 10. Ah, tu ne tueras point. Je pense pas qu'il y a personne qui m'écoute qui est un meurtrier. 10 sur 10, tu sais? C'est que là, tu prends les 10 de même, puis tu regardes, toi, les 10 commandements, tu réponds à ça dans ta vie de tous les jours. Comment? Et après, deuxième question, tu recommences. Mais là, la question, c'est comment tu penses que les autres suivent ça? Puis là, tu redescends ta liste de 10 commandements. Bien, ça a l'air que, puis ça se figure bien, que partout, il n'y a pas, tu sais, n'importe où, c'est le propre d'une personne de toujours se coter plus haut que les autres. Nous sommes tous plus vertueux. D'où l'idée du docteur de dire, « Hey, d'après moi, le gars violent, qui voit un autre gars violent dans un, comme je vous dis, n'importe où, je pense pas qu'il fait comme, « Oh mon Dieu, hey, moi, je suis de même, hein, puis c'est épouvantable. » Non. Et non, moi, peut-être que je sais que j'ai un problème de violence, mais à quelque part, il est soit justifié, il est hors de mon compte, je ne sais pas quoi. Au lieu de faire comme, « Hein, je prends une prise de conscience par rapport à d'autres, puis là, je me dis, non, on est tous plus vertueux. » Ça, je trouve ça mais tellement intéressant. On est tous plus vertueux que les autres. On pense tous qu'on fait quelque chose de mieux que la moyenne des ours. C'est capoté. Puis là, c'est intéressant parce que souvent, les gens vont avoir fondamentalement un problème de culpabilité. Moi, j'ai reproché ça aux filles toute ma vie. Je l'avais écrit dans « Moi, si j'étais une fille », qu'on dirait que ça vient avec l'ADN d'une fille. J'avais même un excellent gag où je disais, tu sais, les gars, les filles pensent que les gars, on se sent jamais coupable. Ben, c'est pas vrai. La seule différence, c'est que nous autres, quand on se sent coupable, c'est parce qu'on l'est vraiment, tu sais. puis c'est une tendance malheureuse, mais qu'on dirait que c'est pas encore fini. Féministes ou pas, les filles ont tendance à se sentir plus coupables. Mais plus coupables, c'est pas moins vertueuse. C'est à la rigueur, c'est peut-être même plus vertueuse. Genre, ah ben moi, en tout cas, c'est peut-être un peu de ma faute ici. Pourquoi? Parce que je suis une bonne personne. Fait que, comprenez-vous, c'est toute cette mouvance-là qui fait que... Ma conclusion ce matin, c'est que, Caroline, je trouve que ça vaut la peine de faire une mini interrogation, à savoir, ça se pourrait-tu que je t'entourais de toutes sortes d'affaires qui font en sorte que ce que je pense, c'est bien moins réellement ce que je pense que ce qu'à quelque part m'est inculqué puis qu'on me rentre dans la tête puis je m'en rends pas compte tant que ça. Peu importe ma situation. Super gauchiste qui veut sauver le monde, super gars de droite, voire extrême droite qui considère que là, vraiment, puis peu importe. Peu importe, là, qui est réellement indépendant d'esprit, puis qui peut dire, moi, quelque part, toutes les situations, là, je les analyse bien, puis je les... Tu sais, on sait déjà que c'est pas ça, parce qu'on est des êtres avec des émotions, des sensibilités, puis c'est bien correct, moi, tout le monde. Mais ça se peut-tu que même quand on se dit, ouais, moi, je me fais ma propre idée, hein, faites votre propre idée. Jusqu'à quel point on fait notre propre idée? Voilà. Sur ce, on se reparle lundi, et sur Patreon demain, bye-bye.